Radio Poppy, Radio Radio Poppy, Radio Poppy. Impossible de l'oublier.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pommier pour une émission exceptionnelle. Je m'appelle Nathalie et je serai l'une des trois présentatrices pour l'émission d'aujourd'hui. Je serai accompagnée de Licia. Salut Licia.
Salut Nathalie.
Et de Charlesia. Salut Charlesia.
Salut Nathalie.
Voici le programme que nous vous proposons aujourd'hui. Tout d'abord, Licia, Charlesia, Tina, Margot et Louise se sont divisées en deux groupes pour faire un micro-trottoir sur le sujet de Noël. Puis, Mirlinda et Diego feront une super critique des fameuses bandes dessinées Les Légendaires. Ensuite, Yasmine et Philomène vous présenteront une rubrique sur le slime avec d'étonnantes découvertes. Pour continuer, Elliot, Fabien, Kailan, Kenan et Louis vous présenteront des sports insolites complètement dingos. Nous poursuivrons avec Artus et Evan qui vous présenteront une rubrique d'art un peu bizarre. Puis nous aurons l'honneur d'accueillir le joueur de basket Arnaud Couture des Lions de Genève pour une interview exclusive. Ce seront Bilal, Alban et Alexandre qui intervieweront ce grand sportif. Enfin, nous écouterons un micro-préau mené par Laura et Pramiti sur le jeu de notre cours de récréation. Alors les copains, vous êtes prêts ?
Oui !
Commençons tout de suite avec nos micro-trottoirs. En cette période de Noël, tout le monde s'agite et court dans tous les sens pour que la fête soit parfaite. L'achat de cadeaux et le repas de Noël sont des sujets que nos camarades Tina, Louise, Margot, Charlesia et Licia ont abordés avec des passants du quartier.
Menu, préparez-vous pour le repas de Noël. Pour
J'ai pensé à faire du bourguignon.
Ah oui, ça c'est bien.
Alors moi, je rêverais de faire un menu végétarien, mais le reste de la famille ne veut pas. Donc on va devoir faire une viande.
Pourquoi choisissez-vous un menu non traditionnel?
Je ne sais pas faire la dinde.
Parce qu'il y a plein d'autres choses très bonnes. C'est pas obligatoire le traditionnel pour moi.
Oui. Vous verriez-vous manger une fondue pour Noël?
Complètement.
Oui.
Pourquoi?
C'est un repas convivial.
C'est très bon.
D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt un plaisir ou une corvée selon vous de préparer le repas de Noël?
Un plaisir.
Un plaisir.
D'accord. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes des élèves de l'école du Pommier. Êtes-vous d'accord de répondre à nos questions?
Salut, pensez. C'est personnel ou bien?
Non,
c'est pas sur ma vie privée.
Non.
Hein? Non. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Ça dépend. Quel menu préparez-vous pour le repas de Noël?
Alors là, je sais pas encore. Okay. Peut-être des petits enfants à la broche.
Avez-vous préparé la dernière?
Non,
préparé
je
l'an
encore,
dernier.
Je sais pas.
Alors, qu'avez-vous préparé l'an dernier?
Pardon?
Alors, qu'avez-vous préparé l'an dernier?
Ah, l'an dernier, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je fais pas la cuisine. Ça, c'est ma femme.
D'accord. Vous verriez-vous manger une fondue pour Noël?
Oh non.
Pourquoi?
Non, parce que je la mange à longueur d'année.
Ok.
Ouais, pas pour Noël.
Est-ce que vous pensez que c'est plutôt un plaisir ou une corvée pour vous de préparer le repas de Noël?
Ah non, c'est un plaisir pour ceux qui le font, mais pas pour moi.
Ok.
Moi, j'arrive même pas à toucher les pommes de terre.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Mais je vous en prie.
Bon après-midi.
Ouais,
au revoir.
Quel menu préparez-vous pour le repas de Noël?
Alors, chez moi, il y a de la dinde et du gratin de cardon.
Avec du riz aussi.
Est-ce que c'est vous qui le préparez?
J'aide ma maman à le préparer.
Pourquoi un menu traditionnel?
Parce que justement c'est une tradition, alors chaque année on fait la même chose. Ouais, voilà.
Vous verriez-vous manger une fondue pour Noël?
Non.
Pourquoi?
Parce que j'aime le repas traditionnel.
Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une corvée ou un plaisir selon vous de préparer le repas de Noël?
Un plaisir.
Moi je vais rien préparer, je vais manger chez la belle-maman, c'est elle qui va tout faire.
Ah, d'accord.
Je crois une fondue chinoise.
Ah. pourquoi choisissez-vous un menu non traditionnel?
Je crois que j'ai choisi la facilité.
D'accord. Facile, la facilité. Vous verriez-vous manger une fondue pour Noël?
Une fondue de fromage?
Oui.
Ouais, ça se pourrait, ouais.
Ok. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une corvée ou un plaisir selon vous de préparer le repas de Noël?
Non, c'est un plaisir.
Alors, on fait à plusieurs, on prépare des huîtres, du saumon fumé, des escargots, et du gratin de cardon et des fois des biscuits de Noël aussi.
Est-ce que c'est vous qui préparez ou une autre personne?
Alors moi et les autres personnes de la famille. Tout le monde prépare quelque chose.
D'accord. Pourquoi choisissez-vous un menu non traditionnel, c'est-à-dire pas la dinde et la bûche?
Parce qu'on n'aime pas la dinde.
D'accord. Vous verriez-vous manger une fondue pour Noël?
Oui, ça pourrait être sympa. Oui, ça pourrait être sympa.
Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une corvée ou un plaisir selon vous de préparer le repas de Noël?
C'est un plaisir.
D'accord.
Quel menu préparez-vous pour le repas de Noël?
C'est pas moi qui vais préparer, c'est ma tante. Ah. Mais j'imagine qu'on va manger du foie gras, des trucs comme ça.
Pourquoi choisissez-vous un menu non traditionnel, c'est-à-dire pas la dinde avec la bûche?
Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de pas traditionnel.
Vous verriez-vous manger une fondue pour Noël?
Bien sûr.
Pourquoi?
Parce que c'est bon. On est là pour se faire plaisir, non?
Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une corvée ou un plaisir de préparer un repas de Noël?
Un petit peu des deux, très honnêtement.
Nous sommes des élèves de 7P de l'école du Pommier et nous faisons un projet pour une émission de radio. Seriez-vous d'accord de répondre à quelques questions?
Oui.
Est-ce que vous fêtez Noël?
Oui.
Pour vous, est-ce que c'est une corvée ou un plaisir d'acheter vos cadeaux?
Oh, c'est un plaisir.
Pourquoi?
Parce que j'aime chercher des choses qui vont faire plaisir aux personnes qui sont autour de moi.
Est-ce que vous achetez vos cadeaux plutôt à l'avance ou plutôt à la dernière minute?
À l'avance.
Pourquoi?
Ben, comme ça, je suis sûre de trouver ce que je veux.
Est-ce que vous pensez que les cadeaux vous coûtent trop cher?
Oui, certains, oui.
Est-ce que vous fêtez Noël?
Oui.
Et pour vous, c'est plutôt un plaisir ou une corvée d'acheter les cadeaux pour vos enfants et pour votre famille?
Un plaisir, c'est mon anniversaire.
Pourquoi?
Parce que je nais le 23 décembre.
Et vous y prenez plutôt à l'avance ou plutôt à la dernière minute?
Un peu à l'avance. Pas beaucoup à l'avance, un peu.
Ouais, pourquoi?
Parce que j'aime bien les couleurs, les lumières, la famille aussi.
Et vous pensez que ça vous coûte trop cher, les cadeaux, ou ça va?
Ça coûte cher.
Bonjour, nous sommes des élèves de 7P de l'école du Pommier et nous faisons un projet pour une émission de radio. Serez-vous d'accord de répondre à quelques questions?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous fêtez Noël?
Oui.
Pour vous, est-ce que c'est une corvée ou un plaisir d'acheter vos cadeaux?
Acheter les cadeaux, c'est une corvée, mais les fabriquer, c'est un plaisir.
Est-ce que vous achetez vos cadeaux plutôt à l'avance ou plutôt à la dernière minute?
Un peu des deux.
Pourquoi?
Parce que pour les enfants, je suis plutôt bien organisée, mais pour les adultes, un peu moins.
Est-ce que vous pensez que les cadeaux vous coûtent trop cher?
Non, parce que je suis une personne très raisonnable.
Est-ce que vous fêtez Noël?
Enfin, ça dépend ce qu'on appelle fêter Noël. Avec la famille, oui. À l'église, non.
Ah, voilà. C'est ce que je vais dire. Pour vous, est-ce que c'est une corvée ou un plaisir d'acheter vos cadeaux?
Oh, qu'un plaisir.
Pourquoi?
Parce que ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens que j'aime.
Bonjour, nous sommes des élèves de 7P de l'école du Pommier.
Bonjour.
Et on fait un projet pour une émission de radio. Est-ce que vous serez d'accord de répondre à quelques questions?
Pourquoi pas, oui.
Est-ce que vous fêtez Noël?
Ah, toujours, oui.
Et pour vous, c'est plutôt une corvée ou plutôt un plaisir d'acheter vos cadeaux?
Ah, c'est toujours un bonheur. Faut faire plaisir aux gens, c'est toujours... C'est toujours très bien.
Oui. Est-ce que vous achetez vos cadeaux plutôt à l'avance ou plutôt à la dernière minute?
Alors, je m'y prends toujours à l'avance, parce que comme ça, au moins, j'ai le temps de revoir les choses si je fais des erreurs.
Et vous pensez que vos cadeaux vous coûtent trop cher ou...
Oh, ça dépend, tout dépend ce que l'on achète. Hein. Après, on peut trouver son bonheur à tout prix, à tous les prix.
Oui. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos
merci.
Questions. Et bonne après-midi.
Et bonne journée. Au revoir.
Est-ce que vous fêtez Noël?
Pas dans ma religion, mais on le fête quand même.
Okay. Pour vous, est-ce que c'est une corvée ou un plaisir d'acheter vos cadeaux?
Si c'est une obligation, ça va être un peu dur. Mais en fait, toujours c'est un plaisir d'acheter des cadeaux pour les gens qu'on aime.
Et est-ce que vous achetez vos cadeaux plutôt à l'avance ou plutôt à la dernière minute?
Non, à l'avance. C'est à l'avance pour moi. Je suis comme ça, je suis organisée.
Et est-ce que vous pensez que les cadeaux vous coûtent trop cher?
Oui. Oui, un peu, ça devient plus en plus trop cher.
Et voilà, merci les filles, merci d'être sorties sous la pluie et dans le froid pour récolter ces témoignages. Si vous faites partie de ceux qui achètent leurs cadeaux à la dernière minute ou même en retard, peut-être que la rubrique suivante vous donnera une bonne idée d'achat. En effet, Mirlinda et Diego nous ont préparé une rubrique spéciale BD Les Légendaires. C'est à vous de jouer les copains.
On s'approche la diable.
Mais qu'est-ce que vous faites?
Ben, on imite les légendaires.
Critique BD légendaire. On montre victoire, on montre avenir, délivré du sortilège.
Tous unis contre le mal. Les légendaires, la jeunesse éternelle.
Diego.
Salut Mirlinda. Aujourd'hui, nous allons parler des célèbres bandes dessinées des légendaires. C'est une série de BD françaises destinée aux enfants, mais qui passionne également beaucoup d'adultes. Elle est écrite et illustrée par Patrick Sobral, qui est un auteur de 46 ans, origine de Limoges, en France. Les dessins sont magnifiques et du style manga.
Cette série a pour thème les aventures d'un groupe de héros dans un monde médiéval fantastique. Au début de l'histoire, il y a une catastrophe qui a ramené toute la population en enfance.
Oui, je connais bien ces BD. Je les adore! Il y a 3 séries en tout. La première est la série de base des légendaires qui contient 21 tomes. Le premier est sorti en 2004 et le dernier tome vient de paraître le 31 octobre 2018. Cela veut dire qu'il a mis 14 ans pour tous ses écrire, tu te rends compte?
Oui, c'est dingue! Ça doit être un sacré travail. En plus, il a écrit toute la série tout seul. Les 2 autres séries ont été produites avec Nadou et Jessica Young. Il s'agit des légendaires origines et des légendaires parodia. Moi, je trouve que ces BD sont amusantes et ne sont pas destinées qu'aux enfants. Tu n'es pas d'accord, Diego?
Tout à fait d'accord avec toi, Mirlinda. J'adore l'univers de cette histoire. Ça se passe dans un monde fantastique nommé Alysia où tous les habitants sont devenus des enfants. Ce monde est divisé en 6 parties. Il y a Larbos, où se trouve le château du roi Larbosa. Il y a Orchidia, où se trouve l'arbre permettant de fabriquer des bateaux magiques. On parle aussi de la partie de Rimar, qui est une sorte de port pour les bateaux avec une prison. On trouve Castle, qui est la demeure de Darkel, le sorcier noir. Il y a aussi le monde elfique où vivent les elfes. Et enfin, le monde de Jaguaris où vivent les jaguariens, c'est-à-dire les hommes bêtes.
T'as raison, ce monde est fabuleux. Moi, c'est plutôt les personnages que je trouve géniaux. Ils sont 5 héros en tout et doivent trouver un moyen de rendre aux gens leur forme adulte. Il y a Griff, qui est l'homme bête, Danaël, qui est le chef des légendaires. Jadina, une princesse magicienne. Razia, le plus fort du groupe. Et enfin, Chimie, qui est une elfe élémentaire. Ce qui veut dire qu'elle peut fusionner avec les éléments. Moi, mon héros préféré, c'est Griff. Parce qu'il est super courageux. Et toi, Diego, c'est qui ton préféré?
Moi, c'est Razia parce qu'il est le plus fort. Mon tome préféré est le numéro 8 parce que Skroa, qui est un démon oiseau, utilise une ruse incroyable pour pénétrer dans Jaguaris. En effet, il fabrique un être à partir de son bras droit. Celui-ci réussit à se mêler au légendaire pour pénétrer ce monde et voler la corne de Sigma, qui est la corne à souhait. Et toi, Merlinda, quel est ton tome préféré ?
Mon tome préféré est le premier, parce qu'on découvre tout cet univers et que c'est là qu'il casse la pierre de Jovenia. Ce qui jette le terrible sort de ramener tout le monde en enfance.
Quand j'ai lu le tome 10 des légendaires, j'étais triste parce qu'ils vont tous mourir.
Et moi, la première fois que j'ai lu le tome 1, ça m'a tellement plu que j'ai tout de suite voulu découvrir les autres tomes.
Je trouve que les BD des légendaires seraient un beau cadeau pour Noël, non ?
Super idée, Diego.
Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons
un joyeux Noël.
Merci Mirinda et Diego pour vos recherches. Si malgré tout aucune idée ne vous vient à l'esprit pour faire un joli cadeau, nous sommes sûrs que la rubrique qui va suivre saura vous convaincre. Yasmine et Philomène ont préparé un sujet d'actualité chez tous les enfants. Il s'agit d'une rubrique sur le slime. Le slime a été inventé par Mattel en 1976. Il a créé une véritable révolution car, depuis quelques années, un grand nombre d'enfants ne quittent plus leur domicile sans leur Tupperware plein de slime. Ils jouent avec en le malaxant pendant des heures. Il en existe de toutes les couleurs. Certains sont plus souples, d'autres plus gluants, et on trouve parfois des slimes brillants pleins de paillettes. Mais malheureusement, ces pâtes gluantes sont toxiques car les ingrédients sont loin d'avoir été pensés pour être malaxés à longueur de journée. En effet, le slime est fabriqué à partir de colle liquide, de mousse à raser, de lessive industrielle ou encore de gel pour les cheveux, de dentifrice ou de liquide pour les verres de contact. Le problème, c'est qu'à force de toucher les substances présentes dans le slime, cela provoque des irritations sur les yeux, sur la peau, les voies respiratoires. Il peut causer des brûlures. Les composants du slime peuvent aussi affecter la fertilité et le système nerveux. Ces problèmes arrivent parce qu'on trouve dans les slimes de l'arsenic, du mercure, du barium, du chrome, du strontium et du bore. Toutes ces substances sont des éléments chimiques, sauf le chrome, qui est un métal. Pour tous les slimes testés par les scientifiques, les substances trouvées dedans seraient présentes en quantité raisonnable, sauf pour la substance du bore, qui est à la base des agents ultra puissants. En effet, la quantité limite pour que le bore ne soit pas nocif est largement dépassée dans tous les slimes. Par exemple, dans les slimes de la marque La Pâte Intelligente, Pacific Surf et Creapat, on trouve 2 à 3 fois la dose autorisée de bore. Quant à Barrel au slime Caution, il explose les compteurs avec pas moins de 14 fois la dose autorisée.
Alors lorsque vous achèterez du slime pour vos enfants, soyez vigilants. Mais les enfants ne se procurent pas le slime uniquement dans les magasins. Beaucoup d'entre eux en fabriquent à la maison. Nous en avons testé plusieurs et nous aimerions beaucoup vous présenter une recette de slime non toxique car il est fait uniquement à base de produits naturels. Comme ingrédients, vous avez besoin de 100 g de maïzena, 110 ml d'eau et voilà, c'est tout. Mélangez bien pour que la pâte devienne homogène. Vous pouvez ajouter des colorants alimentaires et des paillettes. Pour le conserver, il faut le mettre au frigo dans un Tupperware. Nous, on a mis plein de paillettes et du colorant rouge. Ça fait un super slime de Noël. J'espère qu'il vous plaira et que vous jouerez bien avec. Pensez à l'offrir à ceux que vous aimez.
Merci pour toutes ces idées de cadeaux, mes amis. Je suis désolée d'interrompre notre émission, mais je vois qu'Eliott n'a pas l'heure dans son assiette. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais le sujet des fêtes de fin d'année a l'air de l'avoir complètement démoralisé. Eliott, que t'arrive-t-il ? Allez, vas-y, tu peux nous le dire, ça reste entre nous, promis.
Ben oui, ça me tracasse tout ça, parce que mes parents m'ont laissé jusqu'à la fin de l'année 2018 pour me décider à choisir une activité ou un sport à faire après l'école. Je ne trouve rien qui me motive, je suis désespérée.
On comprend, Eliott, on est désolé pour toi. Mais je crois que ça tombe bien, car un des groupes de la classe a justement fait des recherches sur des sports pas comme les autres. Peut-être que ça va t'aider.
Radio, radio, pommier, pommier, la plus musclée.
Sport insolite.
Sport, sport, sport.
Insolite, 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 insolite.
Cheval à deux pattes.
Salut Elliot, ne t'inquiète pas, je vais te présenter un sport qui sort de l'ordinaire et qui va sans doute te plaire. Il s'agit du hobby horsing. Le hobby horsing est un sport un peu loufoque, humoristique, mais très sérieux, à la fois également appelé cheval à deux pattes ou cheval bâton. Il s'agit en fait de faire de l'équitation, mais sans cheval. En effet, les participants chevauchent une tête de cheval au bout d'un bâton et font des courses d'obstacles ainsi que du dressage. Sauf qu'en réalité, les chevaux sont imités par les humains. Ce sport est né en Finlande, se pratique dans de nombreux pays dans le monde et il existe même depuis cette année des championnats du monde. Ils ont lieu le 29 septembre à Vendée, en Finlande. Les candidats sont venus de toute la France, mais aussi de Belgique, d'Espagne ou de Grande-Bretagne. Une soixantaine d'équipes, composées de 2 à 6 joueurs, se sont affrontées dans des épreuves de saut d'obstacles ou de dressage, en montant sur un bâton orné d'une fausse tête de cheval. Pour pouvoir participer, il était demandé à chaque équipe de recopier 20 fois « Je serai champion du monde de cheval à deux pattes » ou encore de conjuguer le verbe « galoper » au plus que parfait du subjonctif. Tout est évalué par un jury. Figure imposée, dressage, parcours d'obstacles et même les hennissements. Oui, oui, vous avez bien entendu. Les participants doivent hennir, c'est-à-dire imiter le cri du cheval. Elles sont notées sur leur prestation. Ce sport est quand même éprouvant car ce n'est pas facile de faire plusieurs tours de piste en galopant, en sautant et en hennissant. Les athlètes doivent sûrement s'entraîner beaucoup. Les concurrents n'ont pas de soucis à se faire puisque le cheval ne boit pas, ne mange pas, ne fait pas de crotte et n'est vraiment pas difficile à transporter. Pratique, hein ? Bien entendu, ce sport bizarre ne se pratique pas à un niveau professionnel. Alors Elliot, avoue que tu es impatient de commencer le hobby horsing.
C'est-à-dire que je dois encore réfléchir car je suis allergique aux poils synthétiques de chevaux.
Sport, sport, sport. Insolite, 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 insolite.
Quidditch moldu.
Alors Elliot, ça te dirait de faire du Quidditch moldu? Tu verras, c'est génial!
Oh, comme dans Harry Potter, tu peux voler et tout et tout!
Non, mais c'est tout aussi bien, écoute. Le Quidditch moldu est un sport inspiré des romans Harry Potter, du rugby, du handball et d'autres sports. Il a été créé en 2005. Le Quidditch est le seul sport collectif obligatoirement mixte avec un maximum de 4 personnes du même genre par équipe sur le terrain. Il se joue à 7 par équipe et il se pratique avec 4 balles sur le terrain. Il n'y a pas de mi-temps, mais des remplacements peuvent se faire à n'importe quel moment. Les joueurs chevauchent un balai qu'ils doivent toujours tenir entre les jambes s'ils ne veulent pas se faire pénaliser. Ils jouent sur un terrain ovale de 55 mètres de long par 33 mètres de large. Il y a 4 types de joueurs différents. Le gardien, les batteurs, les poursuiveurs et l'attrapeur. Le gardien doit protéger ses buts. Il peut sortir de sa zone et aider ses coéquipiers en marquant des buts. Le jeu se complique avec 3 cognards, qui sont des balles peu gonflées utilisées par les joueurs appelés batteurs. Ceux-ci doivent toucher leur adversaire avec les cognards, ce qui les sort temporairement du jeu. Les poursuiveurs doivent marquer le maximum de buts avec une balle qu'on appelle le soifle. Ils doivent viser l'un des 3 anneaux adverses en évitant les cognards et en évitant de se faire plaquer par les adversaires. Chaque but vaut 10 points. Les attrapeurs sont des joueurs qui vont sur le terrain dès la 18e minute et qui ont pour mission d'attraper le vif d'or. Il s'agit d'une balle de tennis placée dans une chaussette et attachée à un shirt d'un arbitre habillé en jaune. Le but est de l'attraper avant l'équipe adverse. Attraper le vif d'or vaut 30 points et met fin au match. Pour être un bon joueur, il faut être agile, avoir de bons réflexes et de l'endurance, car ce sport n'est pas un des plus faciles et n'est pas de tout repos. Aussi, il faut savoir viser. La première Coupe du Monde de Quidditch a eu lieu en 2007. Alors Elliot, ça t'a plu ?
Mouais, bof, on peut même pas voler pour de vrai. ça me tente pas trop.
Sport, sport, sport.
Insolite, 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 insolite.
Toboggan.
Cher Elliot, moi, j'ai ce qu'il te faut. Tu aimes aller à Aquapark, n'est-ce pas?
Ouais, c'est trop bien.
Alors écoute-moi bien, je vais te parler de la glisse sur toboggan en compétition. Ce sport est pratiqué en Allemagne et en Norvège principalement. Les règles sont simples, il ne faut glisser ni sur les coudes, ni sur les genoux, ni tout nu. La crème et l'huile sur le corps sont interdites. Pour aller le plus vite possible, il faut être lourd, avoir le corps bien tendu et entraîner sa technique. On peut entraîner la position de son corps partout, même le soir devant sa télévision. Pour effectuer un bon départ en flèche, il faut une prise en main maximale de la barre qui doit être parfaitement sèche. Tout comme les mains pour que ça ne glisse pas. Si les mains brûlent légèrement après le départ, c'est bon signe. Les meilleurs toboggans sont ceux qui permettent d'aller à 50 km/h. Pendant la descente, on peut faire des figures comme des flips, c'est-à-dire qu'on peut se tourner sur le ventre dans un virage. La glisse de toboggan existe depuis 30 ans. Il y a de plus en plus d'adeptes de ce sport. En Allemagne, on trouve déjà 40 glisseurs. Dans ce pays, il y a maintenant près de 50 compétitions par année. Le champion d'Allemagne de glisse sur toboggan s'appelle Sven Schuber. Il s'entraîne sur le Black Mamba, le Family Slide et le Speed Racer. Sven Schuber a commencé par hasard. Il est tombé sur une compétition. Un jour, il a participé pour s'amuser et est arrivé deuxième. Depuis, il s'entraîne beaucoup, voyage énormément pour participer aux compétitions et il est déclaré champion chaque année depuis 2014. Avant chaque concours, il va essayer les toboggans et entraîne son mental pour rester au top. Alors Elliot, qu'en dis-tu ? Amusant, non ?
Oui, ça a l'air chouette. Mais s'entraîner chez nous ne serait pas facile. Et puis, je suis trop nul en allemand pour aller m'entraîner avec ton Sven Schlubert. Désolé, mais je ne peux pas choisir ce sport.
Sport, sport, sport.
Insolite, 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 insolite.
Mini piscine.
Alors Elliot, mes camarades n'ont pas su te convaincre. Mais moi, j'ai un super sport à te proposer. Il s'agit du saut dans 30 cm d'eau. Le saut dans 30 cm d'eau est un sport pratiqué par des gens un peu fous. En effet, ils s'élancent de très haut pour atterrir dans une petite pataugeoire gonflable avec seulement 30 cm de profondeur d'eau. Le record du monde est un saut de 11 mètres. Il a été fait le 24 juillet 2011 par Darren Taylor, un Américain surnommé Professeur Splash. Il est très connu. Il réussit à réunir un énorme public à chaque fois qu'il essaye de battre son propre record. Tu devrais franchement penser à commencer ce sport, Elliot. En effet, tu pourrais vite devenir célèbre, car Professeur Splash est le seul à pratiquer cette activité. Du coup, tu n'aurais pas beaucoup de concurrence. Par contre, attention au plateau sur le torse, parce que pour ne pas se blesser, il est obligé d'arriver le plus plat possible. C'est plus prudent que de plonger la tête la première. Alors Elliot, qu'en dis-tu ? Même si tu n'as pas réussi ton test de natation à l'école, tu peux le faire, car ce n'est qu'une pataugeoire de 30 cm de fond.
Non, je suis désolée, mais j'ai le vertige, ça va pas le faire.
Bon, Elliot, puisque tu n'as pas l'air très emballé par les sports, peut-être que ta voix est plutôt artistique. Quelle chance tu as aujourd'hui, cher Elliot, car nos deux amis Artus et Evan ont justement créé une rubrique sur des performances musicales un peu particulières. Écoute ça, on est sûr que tu vas adorer.
Art insolite, R guitare.
Salut Elliot.
Salut.
Tu sais qu'avec Evan, on a une guitare?
Oui.
Et ben maintenant, on fait de la R guitare.
De la quoi?
De la R guitare.
C'est quoi ça? Vous jouez de la guitare dans les avions?
Mais non, t'es bête, pas du tout. La air guitare consiste à mimer un guitariste, mais sans avoir de guitare à la main. C'est comme un playback avec une guitare imaginaire.
Ah ben, désolé, mais là, pour le coup, c'est vous qui avez l'air bête avec votre guitare invisible.
Eh bien, détrompe-toi. C'est quelque chose de très sérieux. Le premier à avoir fait ça en public est le célèbre Joe Cocker, en 1969, lors du festival Woodstock.
Qui ça?
Joe Cocker, un chanteur de rock, un monument de la musique à son époque. Je sais que nous, on ne connaît pas, mais tes parents connaissent, c'est sûr. Ça pourrait peut-être les motiver à t'inscrire à un cours.
Ouais, bon, mais dis-en-moi un peu plus.
Ça a donc commencé avec l'apparition du rock.
et du hard rock dans les années 70. Depuis 1994, les étudiants du département audiovisuel des arts d'Eco à Oulu, en Finlande, organisent le Oulu Music Video Festival. En août, ce festival rassemble près de 20 000 participants venus des quatre coins du monde.
En 1996, il y a eu les premiers championnats mondiaux d'air guitare. C'est un championnat très sérieux avec des juges qui notent soigneusement chaque participant.
Beaucoup de pays organisent leur championnat national. Par exemple, l'Angleterre, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, les États-Unis, l'Irlande, l'Islande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Suède et la France depuis 2005.
Voici le nom de quelques champions. Nous avons Matt Byrne qui vient des États-Unis, Nanami Nagura qui est japonaise et Jay McNally qui est champion du Canada. Alors Elliot, maintenant je te propose d'écouter un morceau d'air guitare magnifique. Écoute ça.
C'était beau, hein?
Monte le volume, on n'entend rien.
Mais c'est normal, c'est de la air guitare.
Ah, mais ça me donne une idée. J'aime bien le concept. On pourrait faire aussi des air devoirs et des air évaluations.
Ah ouais, trop bien! On pourrait même faire de la air école.
Ouais, ne nous emballons pas trop. Mes parents risquent de me faire faire de la air console.
Alors Elliot, que dis-tu de la air guitare? Ça te branche?
Mouais, pof. J'aime pas trop le bruit du silence. Vous n'auriez pas autre chose à me proposer?
Tu es bien difficile. Tes parents ont peut-être raison de s'énerver finalement. Ou peut-être que tout cela est trop original pour toi. Bon, on a une dernière proposition à te faire. Plus classique, mais pas moins attirante. Tu devrais t'inscrire à un cours de basketball.
Du basket? Ah ouais, faut voir. C'est vrai que les cours sont donnés dans la salle de gym de notre école. Et on croise souvent les joueurs des Lions de Genève. C'est vrai qu'on a envie de leur ressembler quand on les regarde tout là-haut. Ce serait chouette de pouvoir leur parler un jour.
Eh bien, Elliot, c'est ton jour de chance, parce que c'est Noël et qu'on a envie de te remonter le moral. Nous avons invité pour toi le célébrissime Arnaud Couture des Lions de Genève pour une interview exclusive.
Oh là là, merci! Vous êtes les meilleurs amis du monde!
On joue au basket pour ressembler à Arnaud Couture.
Interview.
Arnaud Couture, bonjour. Bienvenue dans notre classe, nous sommes honorés par votre présence. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes né à Martigny, vous avez 23 ans, vous mesurez 2m03 et vous jouez au basketball dans l'équipe des Lions de Genève depuis un an. Ce club a acquis une grande renommée grâce à ses nombreuses victoires, notamment au championnat suisse, aux coupes de la Ligue et à la Coupe suisse. C'est un magnifique palmarès. Jusqu'à l'année passée, vous étiez encore au club de Fribourg Olympique, qui est le club qui a remporté le plus de championnats. Pourquoi avez-vous choisi de quitter ce club?
Parce qu'il me fallait une nouvelle expérience. Ça faisait longtemps que j'étais à Fribourg et c'était l'occasion de voir quelque chose de nouveau.
Comment vous sentez-vous chez les Lions?
Très bien, c'est un club qui est extrêmement bien organisé et qui propose un bon cadre et de progresser dans les meilleures conditions.
Avez-vous déjà pensé à l'équipe des Lions de Genève?
Oui, bien sûr, parce que forcément on a des contrats qui sont limités dans le temps, donc il y a forcément un moment où je vais devoir partir.
À quel âge avez-vous commencé le basketball?
Alors j'ai commencé le basket relativement jeune, je devais avoir 7-8 ans et puis j'ai jamais arrêté depuis.
Rêvez-vous de faire ce sport?
Oui et non, parce que quand j'étais plus jeune, j'aurais voulu faire comme votre maîtresse, mais j'aurais voulu être professeur de maths. Mais voilà, il s'est avéré que j'étais fort au basket, donc j'ai continué sur cette voie et ça m'a amené où je suis aujourd'hui.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer?
En fait, à la base, j'ai commencé dans mon village simplement parce que j'avais un ami à moi qui voulait faire un club avec ses parents dans le village et j'ai commencé comme ça, donc c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé le basket.
Quel est le basketteur que vous admirez le plus?
Je pense pas que vous connaîtriez malheureusement parce que c'est des joueurs NBA qui sont pas forcément très connus, mais c'est un Argentin qui vient d'arrêter sa carrière qui s'appelle Emmanuel Ginobili qui jouait à San Antonio, un des meilleurs clubs aux États-Unis, et c'est un super joueur que j'aimais beaucoup regarder.
Qui considérez-vous comme le meilleur joueur de votre équipe?
Je pense que c'est Terry Smith. Je pense que vous l'avez déjà croisé autour. C'est un Américain qui est extrêmement fort et qui a joué dans de très bons clubs en Europe.
Combien d'entraînements faites-vous par semaine?
Tu me laisses compter. 9. Donc 2 tous les jours, sauf le mercredi où on n'en a qu'un seul. Avec, dans ces 9 entraînements, 2 séances de fitness ou une en dépendant de la semaine. Mais normalement 9 plus le match le samedi.
Avez-vous toujours envie d'y aller à l'entraînement?
Ça dépend des jours. Ça dépend de la motivation du moment, mais en général, oui. Parce que c'est important de s'entraîner beaucoup, parce qu'il faut rester à un très bon niveau pour faire un sport de manière professionnelle.
Comment faites-vous pour être au top de votre forme pour les matchs?
C'est juste bien s'entraîner le reste de la semaine et toujours être concentré sur ce qu'on fait. C'est facile de s'éparpiller quand on fait du sport, mais on peut pas tellement se permettre de faire ça. Donc c'est surtout rester concentré et être bien dans son corps.
Êtes-vous plutôt stressé ou plutôt serein avant les matchs?
Je suis toujours stressé. C'est normal pour moi d'être stressé parce que c'est quelque chose qui me permet de rester concentré, de rester toujours concerné et pas de me reposer sur des choses que je connais déjà.
Comment faites-vous pour gérer votre stress?
Je le gère pas.
Avez-vous une chanson qui vous motive pour vos matchs?
Non, pas forcément. J'écoute beaucoup de rock ou des choses comme ça, donc de manière générale, c'est juste le style de musique qui me motive.
Est-ce que votre famille vient voir vos matchs?
Oui, beaucoup. Notamment mes parents et mon frère, beaucoup, et ma petite amie aussi, accessoirement. Donc oui, énormément de monde me suit et c'est toujours agréable.
Pouvez-vous nous parler de votre meilleur souvenir à travers le basket?
Alors, c'était il y a 5 ans maintenant. C'était mon premier match d'équipe nationale. C'était le, si je dis pas de bêtises, le, je vais y arriver, le 10 août 2013, où j'avais joué avec l'équipe nationale suisse, puis on avait battu l'équipe de Russie, qui est une grande équipe européenne.
À quel âge avez-vous débuté votre carrière professionnelle?
Alors ça fait maintenant 4 ans et demi que je fais plus que du basket, sans école ou rien à côté.
L'âge de fin de carrière d'un joueur professionnel de basket est en général de moins de 30 ans. Que pensez-vous faire après votre carrière de basketteur?
J'ai pas encore trop réfléchi à ça, mais j'ai fait des études à l'école de commerce, donc je pense que ça a certainement quelque chose dans des bureaux, typiquement secrétaire ou comptable ou des choses comme ça.
Vous mesurez 2m3, où trouvez-vous des habits à votre taille?
Je pourrais dire que j'en trouve pas, mais c'est pas exactement vrai. On en trouve dans les magasins, il faut chercher. Souvent il faut chercher, c'est plus les chaussures qui sont problématiques. Le 49 au pied, c'est pas... Ah bah voilà.
Est-ce parfois embêtant d'être si grand?
Tu peux demander au cadre de porte. En général, je les prends beaucoup. Mais non, ça ne dérange pas trop. Des fois, on est très utile pour les personnes un peu plus petites qui nous demandent de ramasser d'aller chercher des choses dans les étagères qui sont un peu plus hautes.
Est-ce que vous seriez tenté d'essayer un des sports insolites dont nous avons parlé tout à l'heure?
Alors oui... Et non, parce que l'histoire du plongeon dans 30 cm, c'est pas pour moi. Mais j'avoue que le Quidditch Moldu serait, je pense, assez intéressant à essayer de faire.
Quel genre d'élève étiez-vous à l'école?
J'étais toujours derrière, en classe. Je restais en général assez calme, parce que j'aime pas trop attirer l'attention. Et j'étais assez studieux, enfin... À l'école, j'étais assez studieux. En dehors, j'étais plutôt un candidat à pas tellement faire ses devoirs parce que j'aimais pas trop ça. Mais sinon, quand même, je suivais beaucoup en cours et c'est ce qui me permettait d'être bon à l'école.
Puisque vous vous entraînez dans la salle de gym du Pommier, vous rencontrez tous les jours les élèves de notre école. Est-ce que c'est une chose que vous appréciez?
Oui, énormément. C'est vrai que quand j'étais à Fribourg, on n'avait pas une école à côté, donc on voyait pas grand monde, mais... Ici, quand on arrive tous les matins, tous les soirs, on vous voit tous. Et c'est toujours très agréable de vous voir venir, nous taper dans la main, nous demander des autographes. C'est toujours très agréable et on en profite un maximum.
Pourquoi recommanderiez-vous à Elliot le basketball comme sport?
Parce que c'est un sport qui est très agréable à jouer, qui permet de bien se dépenser. Et qui, voilà, c'est un sport qui m'a permis de me développer personnellement au-delà, enfin, au-delà du physique, parce que ça nous apprend le collectif. Donc voilà, c'est un sport qui est génial pour ça.
Rentrez-vous à Martigny pour fêter Noël en famille?
J'espère, je ne suis pas encore sûr malheureusement, parce qu'on a des... malheureusement on joue aux alentours de Noël. Donc normalement oui, mais je ne suis pas encore sûr.
Merci d'être venu à notre interview et d'avoir répondu à nos questions. Au revoir et bonne chance pour la suite.
Merci.
Alors Elliot, décidé?
Oh oui, c'est sûr, demain je m'inscris au basket.
Ouf, enfin, c'est tes parents qui vont être contents. Un grand merci à Arnaud Couture pour son aide et sa visite dans notre classe. Avant de clore notre émission, il nous reste un dernier sujet à traiter. Puisque nous avons beaucoup parlé de loisirs et de sport, nous avons décidé de nous pencher plus précisément sur notre préau. Pramiti et Laura sont allés demander aux élèves ce qu'ils pensaient des jeux qu'ils avaient à disposition pour jouer aux récréations.
Micro préau.
Est-ce que tu penses que dans le préau des grands, il y a assez de jeux?
Non, non.
Pourquoi?
Bah parce qu'il est pas rempli quoi, y a pas, quand tu regardes le préau, bah y a pas beaucoup de gens. Bon, il est pas vide mais
à quoi tu joues à la récré?
Bah on joue à l'homme noir, on joue au loup. On joue on joue à plusieurs choses.
Qu'est-ce que tu proposerais pour améliorer le préau?
Des jeux.
À quoi tu joues à la récré?
Bah loup, famille, homme noir, plein d'autres jeux.
Qu'est-ce que tu proposerais pour améliorer le préau?
Des jeux genre balançoire, je sais pas moi, tennis, table de ping-pong, voilà.
Bah parce qu'à part le loup famille, courir derrière, on n'a rien du tout.
Rien, pas un petit jeu.
À quoi tu joues à la récré?
Bah au loup. Ou l'homme noir.
Qu'est-ce que tu proposerais pour améliorer le préau?
Bah je sais pas, par exemple des buts de foot, puisqu'on joue tellement au foot. Est-ce que tu penses qu'il y a assez de jeux dans le préau des petits?
Non.
Pourquoi?
Parce que il y a que un petit jeu, enfin trois petits jeux et un énorme jeu. Il faudrait faire deux grands jeux et deux petits jeux.
À quoi tu joues à la récré?
Police valeur.
Est-ce que tu penses qu'il manque des jeux?
Beaucoup de jeux.
Qu'est-ce que tu proposerais pour améliorer le préau?
On rase tout ça et on met des énormes jeux.
Bah, il n'y a pas de jeu. Enfin, moi, j'aurais bien voulu. Bon, maintenant, non, parce que je suis en VIP, mais j'aurais bien voulu que, quand j'étais plus petite, avoir des jeux dans le préau des grands.
À quoi tu joues à la récré?
Bah, en fait, je joue souvent avec mes copines. On joue pas forcément, on joue à la bas. Des fois, on joue à l'homme noir, des fois, on joue au loup, des fois, on parle. Enfin, voilà.
Qu'est-ce que tu proposerais pour améliorer le préau?
Des jeux.
Bah moi je dirais qu'il faut mettre des jeux, par exemple des tables de tennis, enfin des jeux d'échecs, enfin je sais pas, des trucs qu'on peut faire sans se disputer.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous remercions Thierry Briffaut pour la réalisation de cette émission. À tous les passants du quartier qui ont gentiment accepté de répondre à nos questions, car effectivement, nous avons eu beaucoup de refus. Aux élèves du préau qui ont répondu au micro-préau. Un grand merci à Juliette qui a accompagné les groupes pour ces micro-trottoirs et micro-préaux. Et enfin, merci à Sonia Litturdello pour nous avoir aidé à faire l'émission.
Bah c'est moi qui vous remercie, chers élèves, pour votre magnifique travail. C'était vraiment un projet génial du début à la fin. Vous vous êtes tous énormément investis. Vous pouvez être fiers de vous et en tout cas, moi, je suis vraiment très, très fière de vous. Bravo.
Pour conclure, un grand merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté notre émission de radio. Nous espérons qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la réécouter en podcast sur le site des Échos du Préau ou sur notre site de classe.
Joyeux Noël et bonne année 2019. Au revoir.